Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à vous et bienvenue à tous. Merci de votre présence. Voici le programme de Midi News. Il n'y a pas d'autre mot que celui de soumission. Et c'est un spécialiste qui le dit au sujet du départ du proviseur du lycée Ravel, Jean-Pierre Aubin. Ancien inspecteur de l'éducation nationale affirme que les islamistes crient victoire. L'État peut porter plainte, oui, pour dénonciation calomnieuse, mais ça ne changera rien à ce qui s'est passé. Autrement dit, une capitulation, on posera la question à nos invités. Les opérations dites place nette se poursuivent et se mènent aussi dans de petites et très petites communes, en milieu rural notamment. C'est le cas en Haute-Vienne, à Saint-Jonien, une commune de 12 000 âmes. Alors pas de point de deal, mais un trafic en expansion avec son lot de violences qui angoissent bien sûr les habitants autrefois tranquilles. Et puis tout autre chose pour clore cette émission tout à l'heure, l'héritier du trône William et son épouse Kate, qui avait révélé être atteinte d'un cancer, seront absents de la messe de Pâques de Windsor. Pour rappel, chaque année, le jour de Pâques, la famille royale au grand complet se rend en cortège mené par le roi Charles III et son épouse jusqu'à Windsor pour assister à une messe. On en parlera avec notre chroniqueur, ou plutôt notre conteur royal, Bertrand Decker. Ça, c'est pour tout à l'heure. Avant de vous présenter nos invités, place au journal, bien sûr. Et bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est une journée toute particulière dans l'enquête sur la disparition d'Émile. Une mise en situation est organisée aujourd'hui au Haut-Vernay. Le jeune garçon de 2 ans et demi a été aperçu pour la dernière fois le 8 juillet dernier par 2 voisins. Depuis, le mystère reste entier. On va retrouver sur place notre journaliste police-justice Célia Barotte. Bonjour Célia. Alors en quoi consiste concrètement cette mise en situation, Célia ?
Eh bien, Mickaël, 17 personnes ont été convoquées pour participer à cette mise en situation. Il s'agit des membres de la famille d'Émile, des voisins ou encore des témoins visuels. C'est un important dispositif aussi qui a été déployé pour cette opération. Et cela va permettre de déceler d'éventuelles incohérences dans les témoignages recueillis depuis le 8 juillet dernier. Alors, cela va permettre aussi notamment de faire avancer l'enquête puisque aucune piste n'est écartée, même si la piste d'une chute mortelle a été est de moins en moins plausible, étant donné qu'aucun corps n'a été retrouvé durant les différentes battues. Ces 8 derniers mois, il y a eu aussi une centaine d'auditions et les données téléphoniques des riverains ou encore des touristes qui se trouvaient au moment des faits ici au Vernay, dans le hameau du Haut-Vernay, ont été passées au peigne fin. En tout cas, cette mise en situation pourrait prendre fin en fin d'après-midi ou encore très tard dans la soirée.
Merci beaucoup Célia Barotte. Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal annonce que l'État va porter plainte contre l'élève qui refusait d'enlever son voile islamique au lycée Maurice Ravel de Paris. Une plainte pour dénonciation calomnieuse après qu'elle ait accusé son proviseur de l'avoir violenté pendant leur altercation. Le Premier ministre a également précisé que l'adolescente avait quitté l'établissement. Faut-il envoyer l'armée dans le quartier des Moulins à Nice ? C'est en tout cas la demande formulée par le premier adjoint au maire de Nice hier. Ce quartier est le théâtre de nombreux règlements de compte et les habitants sont à bout. Comme l'a expliqué à notre micro une mère de famille pour qui on ne fait que déplacer le problème. On l'écoute.
Moi, je vois un quartier qui vivait et qui se détruit. On voit des élus qui n'apportent rien. On voit des politiciens de tous bords qui n'apportent rien, uniquement quand il y a des élections. Et là, on veut voir vraiment du concret sur le terrain. On veut reconquérir, comme j'ai dit, notre territoire. Et notre territoire, c'est le quartier des Moulins.
Qu'est-ce que ça vous inspire, les opérations Place Nette ?
C'est pas suffisant pour nous, c'est pas suffisant parce que en fait c'est déplacer le problème. Il y a des années j'ai déménagé du quartier et j'avais expliqué que c'était pas le béton qu'il fallait travailler mais les gens. Et en fait on en est arrivé à déplacer, à travailler du béton, pas travailler les gens, et on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui.
Et voilà pour le témoignage de cette habitante. C'est la fin de ce journal. Sonia, place au débat, présent en compagnie des invités de Midi News.
Merci à vous, Mickaël, et à tout à l'heure. Effectivement, parmi nos invités, je la salue, Gabriel Cluzel. Bonjour à vous.
Bonjour, Sonia.
Et merci d'être là. Éric Revel nous accompagne.
Bonjour, Sonia.
Bonjour, et merci. Arthur de Vatrigan est également de la partie, Sonia. Si je puis dire. Merci et bonjour. Et Paul Melun également. Bonjour
le meilleur
à vous.
Pour la fin.
Oui. Alors, vous avez entièrement raison, mais il y a aussi François-Olivier Gisbert qui va nous rejoindre.
Ça y est,
voilà.
Je me suis fait avoir mon propre.
Il nous rejoindra à partir de 12h30. Avant d'évoquer cet entretien ce matin, peut-être que vous l'avez entendu, parce que je trouve que ces mots, en tous les cas, son diagnostic a du poids. Jean-Pierre Robin a été inspecteur de l'éducation nationale pendant des années. Il connaît bien le milieu. Il a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule « Les profs ont peur ». Mais tout d'abord, c'est les élèves qui ont peur, les parents d'élèves, puisque vous savez qu'il y a eu un continuum de menaces d'attentats sur plus d'une centaine d'établissements. Et puis il y a cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Il y a eu une interpellation d'un mineur, un jeune homme de 17 ans qui a été placé en garde à vue à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, donc dans cette vaste enquête sur les piratages des plateformes numériques d'établissements scolaires. L'interpellation a été faite par l'Office de lutte anti-cybercriminalité de la police judiciaire. L'individu n'a pas été encore auditionné. C'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé évidemment sur la nature. La conséquence, on voit, hein, c'est la peur, c'est l'angoisse. Sur la nature, on a encore peu d'éléments, Gabriel Cluzel, mais enfin on est quand même interpellé par l'âge, évidemment. 17 ans à la sortie de l'adolescence.
Oui, ce qui nous montre que nous ne sommes pas au bout de nos peines, hein, parce que concernant ces menaces, mais aussi tout ce qui a trait au sujet aujourd'hui qui nous intéresse concernant l'islamisme, etc., ça touche à chaque fois des très jeunes personnes. Donc en réalité, ça montre que le vivier n'est pas prêt de s'éteindre, puisque au contraire, il est jaillissant. Alors ce sera intéressant de connaître son profil, j'espère que on le saura assez vite. 17 ans, il est mineur, donc ça laisse entendre que le traitement va faire l'objet, encore une fois, d'une minoration, justement, du fait du jeune âge de ce garçon. J'espère néanmoins qu'il y aura des sanctions exemplaires, parce que, si c'est bien lui, évidemment, c'est en soi une forme de terrorisme. Si le terrorisme, c'est de semer la terreur, c'est un terrorisme basse intensité, hein, évidemment, il n'y a pas de victimes, mais ça crée un climat de peur qui ne peut pas durer. L'école doit être fait, évidemment, être un sanctuaire de tranquillité. Donc j'espère qu'il fera l'objet de sanctions exemplaires.
Climat, comme vous le dites, Gabriel, anxiogène. Je rappelle que dans l'Aude, par exemple, un lycée a été évacué, confiné, qu'il y a eu une alerte à la bombe. Et puis plus largement, ce sont des mails avec des vidéos de décapitation, Éric Revel. Alors, et des mails, on peut le dire à nos téléspectateurs, ce sont des mails qui sont très bien, enfin, si je peux dire, écrits, préparés. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'il en est, mais c'est vrai que l'âge interpelle et que ça a contribué pendant plusieurs jours, on va voir hein, l'enquête si c'est bien lui, à installer un climat anxiogène, diriez-vous, pour le moment ?
Non, je reprends les mots de Gabriel Cluzel. En fait, le terrorisme passe aussi par la menace. Donc en réalité, j'allais dire, vu le contexte global, on reviendra peut-être sur le proviseur du lycée Maurice Ravel. Mais vu le contexte global, une menace, le mal est fait en réalité. Pourquoi ? Parce que les élèves et les professeurs des lycées qui sont concernés, mais ceux aussi à qui on en parle. On dit, ah, dans tel lycée, les élèves sur école directe, la messagerie interne, ont reçu tel mail avec telle vidéo horrible. Eh bien, tout le monde, en fait, est sous tension. Et cette menace fait que la terreur, la peur s'immisce dans le quotidien des élèves et des professeurs. Et vous savez, souvent, Sonia, on a dit, mais en fait, l'école de la République est menacée. Mais là, je pense qu'on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un logiciel idéologique qui s'est construit depuis des années. Hein. Ça ne date pas d'hier. Un logiciel idéologique pro-islamiste qui s'est construit et qui touche l'école de la République. Et ce logiciel idéologique fait que, en fait, à côté des valeurs qui étaient les nôtres, s'est construit une autre société qui veut peut-être d'ailleurs prendre le pas sur la République française. On en est là, je pense.
On entendra, et ça rejoint votre argumentaire, ce qu'a dit Jean-Pierre Aubin. Pourquoi je m'arrête sur ce point ? C'est vrai que, on va voir, cet individu, il est pour l'instant suspecté. Les images hier, Arthur, notamment dans l'eau de ce lycée totalement confiné des forces de l'ordre qui déboulent avec évidemment toute l'attirail qu'il faut dans un lycée. Évidemment, ce sont des images terribles dans le pays de Samuel Paty, de Dominique Bernard. Donc forcément, comme a dit Gabriel, il y a la terreur, si je puis dire, mais c'est ça, c'est le but. Et puis aussi, un parfum quand même de déjà-vu, entre guillemets.
Et pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête, qu'on ne fait rien pour les en empêcher ? En fait, à chaque fois, on ne dit plus jamais ça et on voit qu'il n'y a rien de concret qui est mis en place. Alors, il y a eu 2-3 éléments, dispositifs qui ont été mis en place par Gabriel Attal du temps où il était ministre de l'Éducation nationale. Je sais, parce que j'ai un proche qui était concerné par une menace en tant que professeur dans une école et que ça a été très bien pris en charge très rapidement. Une menace à Paris, hein, pas dans une banlieue. Voilà. Donc pour dire, il n'y a plus un kilomètre carré qui échappe. Mais c'est largement insuffisant. Après, la question, quoi, est-ce que nos élites, nos gouvernants ont bien pris la mesure du sujet ? C'est-à-dire que dans la philosophie républicaine, l'école est le lieu, qui est un lieu fondamental parce que c'est là où les enfants deviennent des Français. Et dans le dispositif islamique, ou islamiste, mais je me mets les deux là-dessus, c'est le lieu où il faut empêcher les enfants de devenir français. Et ça passe par la terreur, ça passe par un bouleversement de l'univers mental, ça passe par l'embrigadement, ça passe par la séduction. C'est-à-dire, il y a plein de canaux différents, mais l'école est fondamentale. C'est le dispositif, dans le dispositif islamiste, l'école est un lieu fondamental. Et on voit que c'est la cible privilégiée parce qu'elle elle est attaquée. Alors, jusqu'à un prof égorgé, mais à du piratage qui peut être... Il y a 20 ans, on aurait dit, bon, c'est un canular de mauvais goût. Le piratage, ça a déjà existé.
Bien sûr, non. Là, évidemment, les menaces sont
donc, voilà,
très
au sérieux.
Donc voilà,
il y a tous les moyens, tous les outils sont mis à disposition.
Attendons
mais l'école
de voir
est
quand même
pour cette
raison. La nature, je veux dire, parce que c'est vrai que le canal, c'est la menace islamiste. On va voir l'émetteur, parce qu'il peut y avoir plusieurs hypothèses et plusieurs sources. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est-à-dire que là, pendant plusieurs jours, et probablement encore pour plusieurs jours, plusieurs semaines, ce sont des établissements, des lycées qui ont été surprotégés, bunkerisés. Non, mais... mettons-nous sommes à la place évidemment de ces parents d'élèves ou de ces élèves. C'est pas on tourne la page et on oublie ce qui s'est passé.
Ah mais on peut bunkeriser, on peut protéger, on doit d'ailleurs même. Les gouvernements successifs s'interrogent, une sorte de concours l'épine, on se dit mais que va-t-on faire ? Tourniquet à l'entrée des lycées, des collèges, caméras de vidéosurveillance, policiers aux abords des lycées. En fait, on est face à une lame de fond, bien plus puissante que n'importe quelle barrière à l'entrée d'un lycée. Cette lame de fond, c'est effectivement la diffusion de l'islam politique à travers toutes les structures qui font la France. Et là, en l'occurrence, l'école. Mais tout ça est documenté. L'islam politique, pour se diffuser, peut user de différentes méthodes. La terreur, le terrorisme, effectivement la menace, la peur. Par exemple, sur les caricatures de presse, ceux qui caricaturaient le prophète Mahomet s'y prendront à deux fois après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. La violence, l'hyperviolence, la mort, le sang est quelque chose qui après va décourager quiconque de faire œuvre de liberté. C'est la même chose pour Samuel Paty ou pour Dominique Bernard. Et puis après, il y a la méthode soft, si je puis dire. Là, c'est le roman de Michel Houellebecq, c'est Soumission à l'université, où il explique à quel point son narrateur est pris dans une sorte de pression sociale contre l'islamophobie, de pression sociale à la conformité islamique. Et ça, c'est le deuxième méthode. Boualem Sansal en parle aussi très bien. C'est une méthode plus douce, mais très insidieuse aussi. Et donc, cet étau est en train d'arriver sur les vieilles civilisations occidentales, et singulièrement sur l'Europe de l'Ouest et sur la France. Et si nous n'y prenons pas garde, effectivement, nous allons nous réveiller un matin, passez-moi l'expression, avec la gueule de bois, et on va se dire, mais notre République, nos valeurs, notre laïcité, notre pensée progressiste, nos droits entre les hommes et les femmes, nos droits pour les minorités sexuelles, tout ce pourquoi nous nous sommes battus, et moi, en tant qu'homme de gauche, je me suis aussi battu, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, eh bien, on va le voir voler en éclats sous les coups de boutoir de gens qui voudraient installer une théocratie.
Alors, coup de boutoir...
Il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer.
Alors, justement, est-ce que vous inscrivez ce qui s'est passé au lycée Maurice Revel comme... comme étant une, comment dire, un coup de boutoir, une offensive islamiste, parce que le mot que je l'ai utilisé ce matin, et j'ai été reprise par Jean-Pierre Robin, il m'a dit c'est pas une offensive, parce qu'une offensive c'est quand vous arrivez masqué. En réalité là, pas du tout. En fait, ce qui est vraiment, comment dire, ce qui nous intéresse, c'est que tout est à visage découvert, si je puis dire.
On peut faire des offensives à visage découvert.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'on voit la menace arriver, progresser, la vague monter, monter. Que fait-on en face? Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Aubin, lui, il affirme que les islamistes crient victoire. Que cette jeune fille, là, c'est une vraie question que je vous pose. Cette jeune fille a-t-elle protesté pour enlever son voile? Parce que c'est ça, simplement dans sa sphère, estime-t-elle privée? Ou est-ce qu'elle est instrumentalisée? Est-ce qu'elle fait partie d'un continuum? Lui pense que oui, et vous, écoutons-le.
Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire. Et qu'ils la savourent comme telle, hein, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite.
Gabriel, vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs qui est Jean-Pierre Aubin et, si je puis dire, entre guillemets, d'où il parle?
Oui, bien, Jean-Pierre Aubin a été rendu célèbre, si j'ose dire, c'est un inspecteur de l'éducation nationale, par un rapport qui, en 2004, 2004, il y a 20 ans, hein, nous sommes en 2024, a tiré la sonnette d'alarme. C'était au moment, vous savez, aussi, il y avait aussi Monsieur Bensoussan qui avait écrit Les territoires perdus de la République. Et donc, il a tiré la sonnette d'alarme en disant, c'était un très bien étayé, un rapport tout à fait étayé et paisible, mais en disant, écoutez, là, il se passe quelque chose. Il y a l'islamisme qui monte dans les établissements. Il donne 1000 signes, 1000 indices extrêmement concret et il faut faire quelque chose. Et en réalité, ce rapport a été enterré. Alors je rappelle que nous étions quand même sous un gouvernement de droite. Si certains se demandent aujourd'hui pourquoi LR a des soucis à sortir du marasme, eh bien, si vous voulez, il faut se rappeler un peu du passé. Et ce rapport a été complètement enterré. Évidemment, il a été stigmatisé. On lui a dit non mais c'est quelques cas, vous généralisez à partir de quelques cas isolés. Et il a été, si on peut dire, diabolisé. Hein, c'était le Cassandre qui prêchait dans le désert. Et aujourd'hui, malheureusement, tout lui donne raison. Moi, je l'ai écouté avec grand intérêt ce matin parce que il disait de fait que le Premier ministre avait utilisé l'expression d'entrisme. Il dit mais non, l'entrisme, c'est trotskiste, c'est-à-dire on arrive à petits pas masqués. Alors c'est ce qui s'est passé dans l'éducation nationale avant, et ça a peut-être fait le lit de la suite. Ça, c'est un vaste débat, mais ça éteint les résistances de l'éducation nationale et puis ça a mis un climat de victimisation, ça c'est sûr. Mais là, il dit l'islamisme arrive à visage découvert parce que pour eux, ce sont des victoires emblématiques. Il a raison de le dire, c'est l'islamisme 1, la France 0 dans ce cas de figure, puisque une jeune fille avec la seule force de son voile a réussi à faire partir, à faire plier le représentant de l'autorité, le représentant de l'État finalement, qui voulait faire appliquer la loi. Donc c'est une victoire et évidemment, alors on évidemment que la jeune fille n'a probablement pas reçu un coup de fil pour lui dire tu vas faire ça. Mais c'est vrai qu'elle est poussée par une force qui est bien réelle et donc c'est une victoire de l'islamisme évidemment.
Et avec ses alliés politiques, on va en parler, hein, y compris dans ce qui s'est passé au lycée Ravel. Et puis on écoutera de nouveau Jean-Pierre Aubin, je pense que ça va vous intéresser. Quels sont les enseignements les plus ciblés, ce qui se passe aussi dans l'école? Et puis, il y a des exemples, là on ne l'a pas en sonore, mais je vous le raconte ainsi, vous l'avez peut-être entendu ce matin, il dit par exemple, il ne peut plus dire certains mots. Il y a certains mots
excellent.
En cochon.
Oui, il peut lui dire, vous avez une écriture, vous écrivez
comme un cochon. C'était l'expression d'un professeur, il le disait souvent et pas de manière méchante. Il ne peut plus le dire, il a peur de heurter les élèves. Et tous les professeurs qu'il a auditionnés, en tout cas qu'il a écoutés, lui disent, on a peur juste d'un seul mot, un dérapage. Et donc, représailles, la voiture qui brûle, les proches qui sont menacés, etc., etc.
On l'a pas que avec l'islamisme. Hein.
On va continuer à en parler.
Oui. Dire, tous les progressistes vous empêchent de dire des mots aujourd'hui parce que...
Oui, mais enfin, ça finit pas.
Ça finit avec une mort sociale aussi.
Mort sociale. J'entends. Mais ça ne touche pas l'intégrité physique. Je voulais juste faire une différence.
Une mort sociale, vous pouvez vite vous retrouver sans boulot, au chômage. Et
d'accord, mais c'est quand même une différence. Mais on va en parler justement. Je parlais des alliés politiques. Vous nous direz qui vous mettez justement dans cette case. C'est à vous, cher Mickaël, pour les titres.
L'État va porter plainte contre l'élève qui refusait d'enlever son voile islamique au lycée Maurice Ravel à Paris. Une plainte pour dénonciation calomnieuse après qu'elle ait accusé son professeur de l'avoir violentée pendant leur altercation. Le nombre de permis de construire poursuit sa chute pour le mois de février avec une baisse de plus de 20% sur un an. Des chiffres qui confirment une profonde crise de la construction. Et puis jeudi saint oblige, le pape François célébrera cet après-midi la traditionnelle messe dans une prison romaine pour femmes. Une messe qui commémore le dernier repas du Christ avec ses disciples.
Merci Mickaël. D'ailleurs, on parlera d'une autre messe chez les Windsor. Notre conteur royal sera avec nous, Bertrand Dekkers, et le couple tant attendu, William et Kate, ne sera pas là. Il nous en parlera en fin de l'émission. Pour l'heure, on va rester sur nos sujets. Je voudrais vous faire écouter, Éric Revel, un autre extrait de Jean-Pierre Roban. On lui a posé la question, quels sont les enseignements aujourd'hui les plus ciblés, ce qui est visé véritablement, dans quel cours, à propos de quel sujet les enseignants sont menacés, et parfois même ça en vient aux mains. Écoutons-le.
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas sur des sujets propres aux disciplines qui a le plus d'autocensure, mais sur les sujets qui traitent des valeurs, l'enseignement de la liberté d'expression, l'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la lutte contre l'homophobie ou l'antisémitisme.
La mixité également.
La mixité, l'égalité filles-garçons. Voilà les sujets qui entraînent le plus de contestations les professeurs ont qu'ils ont de la difficulté à aborder et que certains ont peur d'aborder et n'abordent plus.
Bon. Malheureusement, ça ne nous surprend pas.
Ben non, c'est très clair. Ce sont les piliers du logiciel islamiste dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de se substituer. On n'est plus à la phase d'entrisme, mais on est plus loin, qui est en train de se substituer aux valeurs de la République. Mais vous savez, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué récemment, qui est Le Crépuscule de l'universel de Chantal Delsol, qui est l'effondrement des valeurs occidentales et la façon dont, pas que l'islamisme, mais aussi certaines dictatures, en fait, attaquent le modèle que nous, on pensait universel, qu'on a parfois imposé en dépit de ce que aussi aspiraient d'autres cultures et d'autres populations, mais cet effondrement...
Faisant tomber des régimes qui, eux-mêmes, ont fini dans les mains des islamistes.
Exactement. Mais ce crépuscule de l'universel de Chantal Delsol me semble mais éclairant d'une manière incroyable la route qui est en train de prendre... Que sont en train de prendre la plupart des démocraties, en tout cas c'est comme ça qu'on se considère, françaises et autres. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni aussi en matière d'islamisation, c'est un sujet énorme. Donc en fait, tout cela, on le découvre, j'allais dire, à ciel ouvert pour ceux qui étaient les plus aveugles depuis quelques années, mais en réalité, on peut dire que depuis 40 ans, tout cela est en marche en France. Vous vous souvenez sans doute, on en parle souvent, mais parce que c'est un point de départ important à Creil, lorsque Lionel Jospin finit par accepter deux jeunes filles voilées.
Il y a quelques semaines, il a donné une interview, il a dit « je reconnais que je n'ai pas été clair ».
Il aurait pu dire, mais c'est Lionel Jospin, il aurait pu dire, je reconnais que je me suis trompé, voyez. Mais en fait, il a été très clair. Il a permis, en fait, voyez, suivant l'apophthegme populaire, de faire rentrer le ver dans le fruit, en réalité.
Quelle année Creil déjà?
89. Vous avez 5 ans, et je rappelle à ce moment-là, vous aviez toutes les élites, tout le clergé qui était contre, tous les politiques qui étaient contre, toute la presse qui était contre, à part 4 intellectuels. Fontenay, Beninter, Debray, Finkielkraut, qui avait publié un manifeste dans l'Obs pour dire arrêtez de vous coucher, de vous soumettre. Il a fallu attendre 2004.
Elle avait eu des problèmes avec SOS Racine, c'est Gisèle Halimi, interrogée au 20h, elle avait dit.
Quelques-unes, c'est vrai. Je me suis un peu dit, mais non.
Non, vous avez
raison. Il a fallu attendre 6 ans pour que le Conseil d'État.
Exact.
Mais sauf qu'en fait, si on regarde 2004, maintenant 20 ans, il s'est passé quoi? Ça a empiré. Le problème, c'est que la loi de 2004, en fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. Hein. C'est vous êtes pété la clavicule, on va vous filer un doliprane. C'est ça, la réalité. C'est comment voulez-vous combattre le sujet quand vous n'arrivez pas à cerner l'adversaire et quand vous faites un état des lieux qui est complètement foiré depuis le départ? Là, vous parlez d'entrisme. Il n'y a pas d'entrisme. On a ouvert la porte, on a fait le ménage, on a décloué les souvenirs, on a caractérisé le patient, on a dit « venez ». On parle de religion et de laïcité. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de laïcité, ça n'a aucun sens. L'islam, ce n'est pas une religion. Et d'ailleurs, la religion, ça ne veut rien dire. Sauf si vous arrivez à m'expliquer le lien et le point commun entre hindouisme, islam, protestantisme, christianisme, judaïsme.
Une bataille culturelle, même civilisationnelle.
Religion, laïcité, c'est ce qu'on dit. Là, vous parlez, on se bat pour les valeurs de la République. Les valeurs républiques, ça veut rien dire. On se bat pour les droits, ça veut rien dire non plus. Le problème, c'est qu'on a fait de la France une réalité historique, un territoire administratif, où on a dit, eh ben, le culturel remplace le culture, et les lois remplacent les mœurs. Bah forcément, vous arrivez, bah vous n'avez rien, vous installez.
Ça s'appelle vraiment un renoncement, une soumission.
Enfin, moi, je considère que
la guerre n'est même pas menée, la guerre de bataille.
Je considère que valeur républicaine, ça veut dire quelque chose, pardonnez-moi. C'était le terreau commun sur lequel on continuait à grandir et à vivre. Le problème.
Il y avait un commun avant également.
Attendez. Mais le problème, c'est qu'une grande partie de l'intelligentsia de gauche, pendant des années, a voulu fermer les yeux. Et en fait, on ne s'est pas aperçu que sur ce terreau commun poussait autre chose. C'est ça le sujet.
Alors attendez, m'intéresse comme débat. Parce que qu'est-ce que vous mettez, on va marquer une pause, qu'est-ce que vous mettez dans le mot valeur? Il y a un mot qui est le plus répété dans les interviews pour avoir les politiques tous les matins face à moi, c'est le mot valeur. Je crois qu'il y a un problème, mais madame, les valeurs.
Il y a quand même des éléments de définition dans le prolongement de ce que disait Eric, avec qui j'étais d'accord sur ce point-là.
Vous pouvez nous les rappeler après la pause?
Ah, je vous ferai après la pause.
Mais quelle phrase? Tout le monde n'attend que vous.
La pub va être contente.
À tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous reparlerons évidemment de ce qui s'est passé au lycée Ravel avec le proviseur. D'ailleurs, l'État va porter plainte pour dénonciation calomnieuse, mais ça ne va pas changer ce qui s'est passé. Nous en parlons avec nos invités. Et puis, je salue François-Olivier Gisbert qui nous a rejoint.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour François-Olivier Gisbert. Vous allez bien?
Oui.
On ne vous présente plus, mais j'aime beaucoup présenter vos ouvrages parce que c'est un succès incroyable, La Belle Époque, évidemment, La Belle Époque, Tragédie Française et d'autres encore pour bien comprendre ce que l'on vit d'ailleurs. On va en parler, mais tout d'abord vos titres, cher Michael.
Pour Emmanuel Macron, il faut en finir avec le Mercosur. Il trouve cet accord commercial très mauvais pour l'Union européenne et pour les Sud-Américains. Le Brésil, quant à lui, défend coûte que coûte son adoption. Des professeurs en grève pour dénoncer le comportement agressif de certains parents d'élèves. Ça se passe dans une école publique de Nouveau-Atout, près de Rennes. Ils dénoncent des agressions verbales, des intimidations et des menaces. Et puis face à la montée de l'antisémitisme, Berlin prévoit d'introduire dans ses tests de naturalisation des questions sur l'Holocauste, Israël et le judaïsme. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont fortement augmenté en Allemagne.
François-Olivier Gisbert, depuis le début de cette émission, il n'y a pas si longtemps, nous parlons des conséquences de ce qui s'est passé au lycée Ravel. Nous parlons de ce qu'a dit ce matin l'ancien inspecteur à l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin. Et puis on a entendu hier un Premier ministre, si je puis dire, droit dans ses bottes, afficher sa fermeté avec la ministre de l'Éducation que l'on connaît et qu'il a choisi. Si.
Ah non,
il n'a pas choisi.
Il n'y a aucune chance. C'était plutôt un truc pour l'embêter.
Voilà le résultat.
Ce serait l'élite qui l'a choisi.
Je pense, oui.
Mais alors, est-ce que le Premier ministre peut affirmer ce que vous allez entendre tout en ayant cette ministre de l'Éducation nationale à ses côtés? Écoutons-le.
Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé. Et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir ont fait récemment deux victimes dans la famille de l'Éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty.
Pourquoi je vous pose la question sur la ministre de l'Éducation nationale? Parce que je l'ai reçue il y a quelques années quand elle était encore garde des Sceaux sur Europe 1 et je lui avais posé la question sur Mila. Et elle avait tout de suite répondu. D'ailleurs, soyons justes, elle avait dit qu'elle défendait la jeune femme, ciblée de toutes parts.
Oui, après claque,
et le claque a fait très mal. Et comme elle l'a dit spontanément, je me dis quand même, pour dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer la religion aussi spontanément, c'est qu'on l'a intériorisé, c'est qu'on le pense. Après, dans une tribune dans Le Monde, elle a rectifié ses propos. Donc moi, je me demande quel est le logiciel de celle qui dirige aujourd'hui l'éducation nationale.
Mais sur un sujet comme ça, c'est clair qu'il y a une faillite de l'État. Parce que le proviseur, il aurait dû avoir le sentiment que tout l'État était derrière lui. Et je pense qu'il y a un doute quand même, visiblement. Et d'ailleurs, vous voyez bien les deux communiqués. Lui, oui, dit qu'il part parce que voilà, il n'est plus en mesure vraiment d'assurer sa sécurité. Et puis de l'autre côté, on dit non, c'est convenance personnelle. Il va partir plus vite à la retraite, comme ça, voilà. Je trouve que cette affaire montre à la fois la duplicité du pouvoir au sommet, c'est-à-dire, oui, c'est pas une duplicité parce qu'il y a quand même deux lignes, quoi. Mm. Mais il y a deux lignes qui... Bon, oui, Attal, il fait ce qu'il fait, il le dit très bien d'ailleurs, il n'y a rien à redire sur ce qu'il dit. Et puis de l'autre côté, c'est clair que l'État a encore failli. Il a failli dans l'affaire de Samuel Paty. On ne peut pas dire tout à fait qu'il a failli de la même façon dans l'affaire de Dominique Bernard, mais quand même, mm-hmm, parce que c'est arrivé comme ça rapidement et spontanément. Et là, il devrait y avoir quand même le souci de défendre les enseignants. Mais vous vous rendez compte ce que c'est d'être enseignant dans ce pays ? C'est-à-dire, on n'est pas sûr d'avoir l'État derrière soi. C'est juste affreux. Moi, je ne sais pas comment dire. Je veux dire, ça vous laisse sans mots, ça. C'est encore une histoire atroce, enfin, qu'on racontera certainement dans les livres dans quelques années, parce que c'est un recul de plus, quoi.
Et comment mener la bataille ? Parce qu'on a tellement reculé qu'on est dos au mur. Certains disent qu'il est trop tard, d'autres affirment non, c'est pas possible.
Mais sur que non, il est pas trop
on
tard.
Est en France, attendez, c'est l'école française. Mais quel est le sursaut ? Alors, laïcité ou bataille culturelle ?
Mais vous avez vu quand Gabriel Attal a décidé qu'il n'y aura plus d'abaya dans les écoles, les Français ont trouvé ça formidable. Les Français attendent ça. Il n'y a pas d'autorité, parce qu'il n'y a pas d'autorité en haut, enfin, au niveau présidentiel. Mais vous regardez, les Français, ils veulent de l'autorité. Ils veulent des gens qui prennent des décisions. Pourquoi Attal est devenu si populaire et pourquoi il est devenu Premier ministre ? C'est parce qu'il a dit non à l'abaya. Parce que c'est illogique. L'abaya, c'est un vêtement religieux, oui, oui, à consonance religieuse.
Je trouve qu'il est en train de perdre un peu son crédit sur l'abaya.
Ah ben c'est peut-être fait pour, hein. C'est peut-être fait pour. C'est-à-dire le fait qu'il est quand même encastré dans un gouvernement avec des personnes qui lui sont, comment dire, hostile idéologiquement, parce que pour l'instant, enfin, Attal, il a certainement changé, parce qu'il n'était pas comme ça il y a 5 ans, ou même il y a 3 ans. Mmh. Mais enfin, il a peut-être senti le sens du vent. Il soutient une ligne qui est, je pense, une ligne que tout le monde partage. Enfin, ça me paraît...
Presque.
Une ligne.
Oui, non, presque. Si c'était non, tout le monde, on n'aurait pas de problème dans notre pays.
En tout cas, autour de ce plateau, oui. Et visiblement, elle est sabotée de l'intérieur.
Mais juste, pour moi, la déclaration de Gabriel Attal aux 20h de TF1 concernant l'affaire du lycée Maurice Ravel, pour moi, c'est un incroyable aveu de faiblesse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que on l'a dit tout à l'heure, on est dans la soumission. C'est-à-dire que vous avez celui qui incarne au sommet de lycée l'autorité de l'État, à proviseur. Bon. Donc soumission, on l'exfiltre. Et c'est normal, il a peur pour sa vie. Mais on passe à la valorisation. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre dit « je vais porter plainte » pour diffamation contre cette...
Dénonciation calomnieuse.
Mais oui, mais attendez, vous voyez l'importance
et puis surtout après coup,
que vous donnez, non pas à ce qui s'est passé, qui mérite une énorme importance, et autre chose que la soumission, mais vous valorisez encore plus cette fille qui est sortie...
Vous avez raison, mais ils ont tellement... Imaginez,
mais il aurait fallu
quel est le traumatisme, là,
comme le dit France, soit beaucoup plus en appui du proviseur.
Ça fait depuis début mars qu'il a un continuum de menaces, ce proviseur. Il se dit, s'il se passe quelque chose, là... Donc l'État se dit,
vous avez le portrait qu'on fait de ce proviseur. Ouais. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Enfin, c'est quelqu'un, visiblement, très respectueux des gens.
Il a appliqué le doute. Hein,
voilà. C'est Daniel Simonet. Oui. Daniel Simonet, oui, Daniel Simonet, député LFI, qui tout de suite, évidemment, prend le parti de la fille contre le proviseur. Non, mais...
La fille qui dit cette phrase.
Ce pays marche sur la tête.
Je suis passé à autre chose. C'est-à-dire, lui aussi, il a qu'à passer à autre chose. Et s'il est parti, il est parti, c'est tout.
Non, mais
c'est elle qui a gagné parce qu'elle reste et lui s'en va.
Non, elle est partie, mais
elle reste. Enfin, je veux dire, elle reste dans l'enseignement. Non, parce qu'il y avait quand même des mesures à prendre sur cette fille. Enfin, c'est incroyable. Dénonciation calomnieuse contre. Là, vous parlez de perte d'autorité. Mais comment voulez-vous qu'un proviseur ait l'autorité quand la parole d'une fille qui visiblement ment, a menti, enfin, l'a reconnue même. Comment. Et en fait, c'est elle qui gagne à la fin. C'est lui qui quitte l'enseignement et c'est elle qui reste.
proviseur qui est le symbole même de l'autorité, évidemment.
C'est une question d'autorité, mais enfin, c'est aussi une question de valeur, je pense. Et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure quand Éric parlait des valeurs de la République. Ce mot qui est effectivement un peu galvaudé. En tout cas, il y a des valeurs, si ce n'est de la République, des valeurs d'une société comme la nôtre, qui est une démocratie libérale, qui est progressiste,
etc. Ça ne suffit pas, je vais vous
et
dire.
Et je pense que ces valeurs-là... Parce que
ça ne suffit pas à faire adhérer des
non,
gens
j'ai pas dit à la démocratie. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il fallait tenir pied à pied sur ces valeurs, parce que quand Jean-Pierre Aubin nous dit, effectivement, c'est sur les valeurs qu'il y a le plus de véhémence, de violence de la part des islamistes, c'est pas un hasard. Moi, j'aurais pu croire spontanément que ce serait sur les cours de physique-chimie, quand on explique, par exemple, que la création de l'univers, c'est le Big Bang, etc., ou sur l'histoire de France. Non, c'est sur les valeurs. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les valeurs, et en tout cas une partie de nos valeurs, notamment les valeurs progressistes, les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs de non-discrimination des personnes LGBT, etc., toutes ces valeurs-là entrent en choc total et frontal avec l'idéologie islamiste. Donc, moi, je me désole que les progressistes, et Mme Belloubet fait partie des progressistes, c'est une femme qui vient plutôt de la gauche, pourquoi est-ce que les progressistes et le centre-gauche et la gauche n'est pas pied à pied contre cet islamisme conquérant
choquer,
qui s'en vient nuire aux valeurs progressistes,
je vais vous
qui seront valeurs progressistes
parfois,
les premières à être attaquées par
parfois,
l'islam politique.
Parfois, ils se tiennent la main. Je dis les alliés de l'islam politique et certains... dans une frange assez radicale, entre guillemets, du progressisme, se tiennent la main pour déconstruire ce qui est rasé la France.
On parle des valeurs de la République, mais les valeurs de la République, elles ont contribué, à faire ce qu'on appelle les valeurs de la République, si tant est qu'on arrive à définir, parce que c'est très flou, elles ont fait le lit de l'arrivée de l'islamisme, parce qu'elles ont fait le vide de ce que nous étions. Elles ont passé...
c'est pas de la faute des valeurs de la République.
Ah, aussi. Pardon, mais quand on s'est mis à parler de laïcité en France, certains se sont dit chouette, on va pouvoir faire décager le christianisme qui nous défrise depuis des dizaines d'années. Sauf que la nature ayant horreur du vide, ce qu'on a fait refluer, ce qu'on a dénigré, parce qu'il faut voir les contenus. Vous savez, les professeurs aujourd'hui sont des victimes, mais parfois ils ont été aussi pompiers pyromanes. Il y a eu des enseignements sur la colonisation, sur tout ce que vous voulez, qui ont fait le lit de la victimisation aujourd'hui des islamistes, qui ont donné des mots, eh bien cela, ça a contribué à faire le vide et à permettre l'arrivée de l'islamisme chez nous.
Moi, je pense que c'est plus la société de consommation et la mondialisation qui ont fait le vide que les valeurs de la République.
De 2004, de M. Orban, Orban,
non.
C'est pas le même.
Il parle pas hongrois.
Lui, les valeurs de la République, a priori, c'est pas son truc.
M. Aubin, et il dit, finalement, la loi sur la laïcité, ça a fait quoi ? Ça a fait qu'il y a une jeune fille gitane qui a enlevé sa croix et qui a obtempéré sans difficulté. Il y a un élève qui a mis autre chose à la place de sa kippa. Mais en revanche, le reste, ça n'a pas bougé. Toutes les manifestations
Mais c'est pas la même lecture.
Mais vous ne vous opposez pas.
On a fait le vide.
Ouais. Parce que sur le nihilisme triomphant, etc., il y a quand même, ça prospère aussi beaucoup en Occident.
Je pense qu'il y a une erreur d'analyse. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Gabriel, parce que je pense que le nihilisme contemporain vient davantage de la société de consommation, de la mondialisation, de l'individualisme, que des valeurs de la République, si tant est qu'elles existent. Mais en tout cas, toutes les valeurs qui ont fondé la démocratie, la République de 1958, tout ce qu'on a réfléchi sur la démocratie, sur les libertés individuelles, je ne vois pas en quoi ça a détruit la France. Ou alors, il faut revenir. À ce moment-là, il faut revenir à l'ancien régime.
Il y a un moment crucial. C'est que la gauche bien pensante des années 70... a aidé à ce qu'on tire une balle dans le pied des valeurs de la République.
Ça, c'est vrai.
Non, ça avait commencé avant, très bien. Mais puisqu'on parlait de l'autorité, qui pour moi est une valeur sacrée, notamment à l'école, l'autorité d'un professeur, l'autorité d'un proviseur, c'est une valeur importante. Vous vous souvenez quand même, je ne vais pas vous les rappeler, mais tous les apophtegmes 68ards qui s'appellent autorité, vous vous souvenez comment on a déconstruit visuellement l'autorité des professeurs. On proposait à l'élève d'être sur l'estrade au bureau du professeur, et le professeur se mettait dans la salle avec les élèves.
Là, c'est... Ce que vient de dire Eric, en fait, c'est absolument fondamental. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je pense que l'islamisme, en fait, il est rentré par les brèches provoquées par la chute de l'autorité. Et au fond, jusqu'à présent, vous savez, l'esprit critique, parce que c'est pour répondre à ce que vous disiez, l'esprit critique, il est enseigné à l'école. Moi, j'ai entendu ça. Enfin, toutes les opinions étaient là.
Plaisanter. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a enseigné un petit catéchisme de gauche progressiste. Partons, je peux vous donner mon lycée à Paris.
Non, moi, il y avait.
C'était ça, c'était le petit catéchisme.
Il y avait des profs.
D'Algérie, par exemple, c'était une seule voix.
Mais moi, j'avais des profs marxistes, des profs anti-marxistes, des profs, etc. C'était il y a très longtemps, peut-être. C'était il y a plus longtemps que vous. Donc, c'était peut-être différent. Mais
l'école a changé depuis.
Non, non, mais le truc fondamental. Et ça, moi, c'est ce que je voulais dire. Parce que ce qu'a dit Eric, c'est fondamental. C'est l'autorité. L'autorité du prof. L'autorité, si vous voulez, l'histoire de l'enfant roi, c'est-à-dire à un moment donné, à la fin des années 80, début des années 90, et c'est pas seulement l'esprit 68, c'est aussi la faiblesse, la lâcheté générale, l'américanisation de la société. Enfin bon, on a décidé, voilà, c'était fini l'autorité, les grandes crises d'autorité des profs, les profs dont on avait peur, les proviseurs dont on avait peur, le surveillant général. Moi j'étais un sale gosse au lycée, j'ai fait énormément de conneries, j'avais peur. Mais non, mais j'avais peur. Je me souviens, quand j'étais en quatrième, je suis passé en conseil de discipline. Je pleurais, mais pourtant, j'avais pas la larme facile, quoi. Donc,
Je vais vous donner un contre-exemple.
Oui, mais on a tout écu par-dessus.
Un contre-exemple.
Il y a vraiment le problème, si vous voulez. L'islamisme, il faut remettre
de l'autorité. Aussi des pays musulmans. Et souvent dans ces pays musulmans, ce sont des autocrates, voire ce sont des régimes très autoritaires. Et pourtant, l'islamisme essaye aussi. Et là, il y a une autorité qui est revendiquée et qui est... c'est un étendard. Donc comment vous expliquez? Je pense que c'est pas une question d'autorité, me semble-t-il. Hein, parce que regardez dans ces pays-là, et vous avez, et je le cite souvent parce que c'est important de le dire, que dans ces pays-là, l'islamisme tue également. Et il tue aussi des citoyens musulmans.
Excusez-moi, les profs n'ont plus le droit de rien dire. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'ai fait une conférence dans un lycée islamiste, on peut dire, c'était que des gosses d'enfants. Puisqu'il y avait, quand vous rentriez, il y avait énormément de voiles.
Oui,
vous voyez,
je ne sais pas
comment il est rangé d'ailleurs.
Je ne veux pas qu'on fasse un signe égal entre voile et islamisme.
Non, mais. On est d'accord là-dessus.
Certaines peuvent le porter par, mais je.
C'était un quartier, vous voyez.
Égalité totale.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'était un quartier où il y avait beaucoup d'islamistes. Et donc des enfants, souvent d'islamistes. Je me souviens, je suis rentré là. Et d'ailleurs, les profs, ils s'étaient arrangés pour que ce soit des petits. Enfin, j'ai fait une conférence, c'était la même d'ailleurs, à différents. Je crois que c'était des petits paquets de 15, vous voyez, pas plus, parce qu'ils avaient peur, parce que c'était des. Ils devaient être en seconde ou en première, ou peut-être en seconde. Et je me souviens qu'ils étaient, très dissipés. Je me souviens très bien, ma mère qui était prof, j'étais son élève, était prof de philo, de temps en temps comme ça, elle piquait des crises, et puis j'ai fait ça, silence. Et après, j'ai pu raconter mes histoires. Voilà. Donc, c'est ça aussi, je veux dire. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'un prof n'a pas le droit de faire ça. Tout de suite, il va y avoir
un coup de sur la table suffisent à régler.
Je dis simplement,
on a l'air de dire qu'ils n'ont pas d'autorité. Je pense que c'est au-delà de l'autorité.
Je dis pas qu'ils n'ont pas d'autorité.
La cité a organisé le recul de l'autorité.
Je dis qu'ils ne doivent pas en avoir parce que c'est pas bien. Parce que c'est pas l'état d'esprit aujourd'hui.
C'est pas l'alpha et l'oméga. Réflexion parce que vous avez buté sur un mot. Si je peux me permettre, vous avez dit, je suis arrivée dans une école où il y avait beaucoup dit, voilà. Et moi, je vais vous dire, le vrai déni, il est là, parce que le problème, c'est que il y a une question de nombre. Si vous voulez, on a fait venir une population exogène. Merci. Sans imaginer les conséquences que ça pourrait avoir. C'est un fait.
Enfin, j'ai remarqué quand même, excusez-moi.
Il s'est écoulé 20 ans.
Non, mais d'accord. Mais c'est...
Bah oui, mais moi je veux terminer là-dessus. Non. Samuel Paty, c'était quelqu'un qui arrivait de Tchétchénie.
On est d'accord.
Dominique Bernard, c'était quelqu'un qui était ingouche. Est-ce qu'on peut se poser la question sur les populations qui arrivent chez nous, culturellement sont très différentes?
Je dis ça, madame, parce que je pense que rien n'est foutu. Et qu'on peut toujours faire les choses. Moi, j'ai remarqué, à la fin de cette petite conférence, les deux fois, on a parlé ensemble, il venait, on parlait. Enfin, voilà, mais il faut rétablir le dialogue. Et le dialogue, il se rétablira quand les enseignants auront le droit de faire jouer l'autorité et que les élèves qui ont failli à cette autorité sont virés. Et sont virés. Et puis sortent de l'enseignement, sortent du système, pourquoi pas? Pourquoi ce sont toujours eux qui gagnent ? Pourquoi, face aux profs, ce sont toujours eux qui gagnent ? Je veux dire, cette affaire, tout ça est intolérable.
On va continuer à en parler. Votre débat, je le trouve passionnant, j'espère
que c'est pas perdu. Rien n'est perdu, on ne peut pas dire tout est perdu.
Il faudrait faire un bon état des lieux, et l'état des lieux de tout ce que j'entends aujourd'hui et de tout ce que j'entends depuis 10 ans est complètement raté. Parce que si vous enlevez la notion d'immigration, et pardon, les professeurs ont asséné avec autorité aux gens issus de l'immigration que la France était laide, coupable, rabougrie, raciste, mais il le faisait avec autorité pour expliquer qu'on était dans...
Certains profs, faut pas exagérer, pas tous les profs.
C'était le programme commun, c'est pas vrai. Et donc à partir du moment où vous assénez ça et que vous avez passé l'aspirateur sur votre réalité historique, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait faire du commun et agréger les gens, bah, vous avez fait un terreau pour une culture islamique. Parce qu'il y a l'islamisme, mais il y a la culture islamique. Et la culture islamique, elle vient dans les bagages de l'immigration, et on est infoutu de fermer le robinet. Donc on peut faire tout ce qu'on veut en disant oui, c'est une idéologie, ce qui veut absolument rien dire. Oui, c'est une religion, ce qui veut rien dire. On va agiter le gris-gris, la laïcité. Tout ça, c'est bidon. C'est bidon, et ils le savent pertinemment, parce qu'on ne fait pas le bon constat, on ne fait pas les bonnes définitions, on ne fait pas le bon état des lieux.
J'entends, Arthur, mais pardonnez-moi, vous dites... Supposons que quelqu'un arrive au pouvoir et dise terminer les flux migratoires, même si l'immigration zéro, ce n'est pas possible. Vous avez quand même aujourd'hui des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes générations. Comment, sachant que l'assimilation, et c'est Malika Sorel, désormais numéro 2 sur la tête de, qui est sur la liste de Jordan Bardella, qui dit que ça ne se décrète pas.
Non, comment ça ne se décrète pas.
Alors, j'entends l'immigration.
Je vous donne un exemple.
Comment vous faites des Français désirent de faire des...
Déjà, il ne faut pas qu'ils soient majoritaires. Parce que la loi, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, les lois ne triomphent pas d'un État social contraire. Vous pouvez appliquer
la loi du nombre
dans une école. Si 80% sont issus de l'immigration et musulmans, ils vont vous rire au nez, ils vont faire du prosélytisme avec les 20% restants. Il y a des écoles qui se sont montées en disant on va essayer de sauver les petits-enfants de l'immigration, de l'islamisme. C'est l'inverse qui s'est passé. Ils se sont fait gangréner de l'intérieur et tous les autres se sont fait vont choper le virus. Donc, déjà, ça ne marche pas comme ça. Donc déjà, si à partir du moment où vous êtes en sous-nombre, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est mort. Ça sert à rien. Ensuite, il faut quand même se rappeler de quelque chose qui est fondamental. Parce que encore une fois, là, on agite laïcité, tout ça, très bien.
Non,
les valeurs,
non,
c'est bidon sur l'islamisme. La laïcité, c'est bidon, ça sert à rien. C'est pas vrai. Pour une raison très simple. Rappelez-vous, peut-être François de Gévisière était peut-être né en 1905. 1905.
Non, pas encore.
Dommage, vous êtes haut de mémoire. 1905, laïcité, on sait que ça se passe. La France se retrouve avec un fossé entre deux camps. Le fossé est comblé comment ? Par le sang des Français qui sont réunis sous fond de patriotisme à la Grande Guerre. Et pardon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fossé entre ceux qui sont pour la loi de 2004 et ceux qui sont contre la loi de 2004, ils vont se retrouver tous les deux dans le même tranché pour défendre un idéal commun. Parce que les valeurs de la République, la laïcité, personne ne meurt pour ça. On meurt pour une nation, on meurt pour une histoire, on meurt pour une culture, pour tout ce qui est commun. Or, le commun a été effacé.
Les termes du débat sont posés, on va marquer une pause, on va continuer à en parler. Je crois que vous écoutez avec... Attention, bon, laïcité, bataille culturelle, bataille idéologique, fabriquer des Français de désir, on va continuer à en parler. Je vous amènerai aussi dans le sud de la France que vous connaissez très bien. Hélas, pas pour de très bonnes raisons, à côté de Marseille, Nice, vous avez vu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce que disent les habitants. Parce que c'est là où parfois on parle des populations migrées, mais voyons aussi, si je puis dire, la double peine qu'ils subissent aussi quand il y a, eh bien, au bas des immeubles, des rixes, des fusillades qui sont empêchés de vivre et de travailler. Tout le monde a le droit à la sécurité, ce n'est pas garanti sur notre territoire partout. A tout de suite.
Bah, Sonia.
Merci d'être avec nous, Midi News. La suite, nous allons nous rendre à Nice après tout ce qui s'est passé. Mais imaginez en quelques jours une fusillade, une rixe, d'une violence incroyable. Et puis ces opérations place nette... si je puis dire, à côté. Vous allez entendre aussi ce que disent les habitants. Très, très important. Est-ce qu'ils réclament l'armée ? Mais on sait bien que ce n'est pas ni la mission, ni les prérogatives des militaires. Alors on s'interrogera également sur la présence des narcovilles en France. Et pour vous convaincre, mais je crois que nos téléspectateurs sont convaincus, ce sont vous l'entendrez, des magistrats, un ancien procureur général, François Molins, près de la Cour de cassation, qui décrit ces narcovilles. Et puis autre chose, nous irons en Grande-Bretagne parler de la messe et puis de l'absence de Kate et de William. Et nous serons avec notre conteur royal, Bertrand Descaires. Voilà pour le programme, mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de ce journal, les chiffres sur la fraude à l'assurance maladie viennent de tomber et ils sont effrayants. Selon la Caisse nationale, 466 millions d'euros de fraude ont été détectés par les services de l'État. Écoutez le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui parle d'un montant très supérieur aux objectifs.
Le bilan de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie en 2023, il est en forte augmentation puisqu'on a détecté et stoppé 466 millions d'euros. Donc c'était un montant important, plus de 50% par rapport à l'année 2022 et très supérieur aux objectifs qui nous avaient été fixés. C'est le fruit de la mobilisation de l'assurance maladie sur l'ensemble des sujets de fraude, les professionnels de santé, les assurés, les entreprises. Et donc c'est le résultat vraiment de travaux d'enquête, de contrôle, parfois de sanctions qui sont très importants pour tout le réseau de l'assurance maladie.
Au lendemain d'un séminaire gouvernemental autour du travail et des finances publiques, Gabriel Attal s'est rendu ce matin aux côtés de Catherine Vautrin sur le site de production d'une grande entreprise française. Le Premier ministre a réaffirmé son engagement pour l'emploi. Je vous propose de l'écouter.
Je le dis ici, notre objectif s'agissant du travail, il est clair. Travailler tous, gagner plus et travailler mieux. Travailler tous, ça veut dire continuer à faire évoluer notre modèle social pour qu'il accompagne davantage vers l'emploi et qu'il incite davantage au travail. C'est ce qu'on a fait avec la réforme du RSA, c'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de réformes du marché du travail, c'est ce qu'on a fait avec une précédente réforme de l'assurance chômage, et c'est ce que j'ai annoncé hier soir, ce qu'on souhaite poursuivre avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Et puis dans le reste de l'actualité, c'est une journée toute particulière dans l'enquête sur la disparition du jeune Émile. Une mise en situation est organisée aujourd'hui au Haut-Vernay. Le jeune garçon de 2 ans et demi a été aperçu pour la dernière fois le 8 juillet dernier par 2 voisins. Depuis, le mystère reste entier. Selon une habitante, la suspicion règne au sein de ce village des Alpes de Haute-Provence. On l'écoute.
Ça nous tue, ces rumeurs. Ça nous tue. Et je le dis là devant tout le monde, s'il vous plaît, il ne faut pas apporter des rumeurs supplémentaires, quoi. C'est très dur pour nous et pour les gens qui sont victimes de ces rumeurs, quoi. Ces rumeurs ont apporté beaucoup de suspicions, quoi. Et on en souffre. On le sent bien que dans le village, y a des gens parfois qui sont un peu réticents à vous parler parce que vous fréquentez telle ou telle personne, quoi. Voilà. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter les rumeurs, quoi. Il faut arrêter. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'espoir à avoir des réponses ce soir.
Et voilà pour le témoignage de cet habitant donc du Haut-Vernay. C'est la fin de ce journal, là, ce débat à présent et la suite de Midi News en compagnie de vos invités, Sonia.
Merci Mickaël. Je vais reprendre une information que vous avez développée dans votre journal. Ce chiffre, j'allais dire édifiant, c'est le bilan de la fraude à l'assurance maladie. Alors on va en parler au moment où on cherche des économies partout. Je suis toujours entourée de Gabriel Cluzel, d'Éric Revel, d'Arthur de Vatrigan, de Paul Melun et de France-Olivier Gisbert. Je sais que le sujet de la dette vous inspire beaucoup. Alors écoutons les mots hier du Premier ministre. Quand vous avez des déficits, le dérapage, la dette, etc., et que la question vous est posée, mais est-ce que vous faites la promesse de ramener, de reprendre le bon chemin ? Et il dit oui. Jamais, jamais nous n'étions dans une situation comme celle-ci. Jamais. Quand François Fillon disait cela en 2000, c'était 2007.
On avait 1200 milliards d'euros de dette.
Voilà.
On en a 3100 aujourd'hui.
Mais
on a fait plus 2000 milliards en moins de 20 ans.
Alors, très intéressant ce que vous dites. À ce moment-là, François Fillon dit « je suis à la tête ». Oui, je sais. Je ne sais pas pourquoi on rigole. Parfois, trop de problèmes fait rire, c'est ainsi. À ce moment-là, François Fillon dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Hier, notre Premier ministre dit « c'est une situation sérieuse ». Écoutons-le.
Ça s'appelle une liquidation.
Non seulement on a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, mais je rappelle qu'on en a même baissé certains. On a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé que les Français payaient. Nous gardons l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027. Mais je pense que ce qui est important pour les Français, c'est surtout de leur dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ce chiffre de 3%? Parce que quand vous êtes en dessous de 3%, ça veut dire que vous commencez à rembourser votre dette. Donc moi, le sujet, c'est de désendetter la France. Parce qu'un pays qui est surendetté, ça n'est pas un pays libre.
J'en ai cassé mes lunettes, que je vais mettre quand même cassées.
Non, mais il ne faut pas vous énerver comme ça.
C'est
très énervant la dette, parce que tout le monde s'en fout.
Non, pas tout le monde.
Enfin, non, attendez. Voyez, la classe politique,
on en parle.
Vous avez vu les dernières présidentielles, oui. 2022, oui. Il y a une seule candidate qui a parlé de la dette, c'est Valérie Pécresse. On ne peut pas dire que ça lui ait porté bonheur, et pourtant elle en a beaucoup parlé. Oui. C'est la seule aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai. Mais le vrai sujet.
Et regardez les médias. Les médias n'aiment pas parler. Or, c'est un vrai souci.
Mais
pourquoi? Parce que on est en train de.
Parce qu'on perd notre souveraineté. Parce qu'on
pas
a les
seulement,
pieds. Et les
mains. Pas seulement. C'est un des points fondamentaux parce que vous savez que parmi nos créanciers, il y a le Qatar. Moi, ce qui m'a frappé, je n'ai pas été le seul. c'est comment nous avons accueilli, nous la France, l'émir du Qatar. D'ailleurs, vous avez vu, à l'occasion, d'ailleurs, pas de manifestation. Hein,
d'accord, mais France, personne, en ce moment, vous savez qu'il y a des... Enfin, pour les otages, là,
il y a des... Non, il n'y avait pas que le problème des otages, avant, vous savez très bien. Non, c'était là, récemment. Bon, il y avait
avec Mbappé pour un dîner, après le fiasco du salon de l'agriculture.
Voilà, tout à fait. Il était accueilli absolument royalement. Bon, mais il était accueilli royalement pas à cause du Qatar, pas parce qu'il a ce rôle, effectivement, de soi-disant arbitre. C'est, vous savez très bien qu'il était accueilli royalement parce que il commence à investir. D'ailleurs, il a été question qu'il investisse beaucoup, quelques dizaines de milliards. Oui, c'est ça, 10 milliards, et peut-être encore une suite après. Donc, c'est le souci qu'on a aujourd'hui. Vous avez raison, c'est la souveraineté, mais c'est aussi l'avenir de nos enfants. De nos petits-enfants.
Mais c'est lié, mais vous
qu'est-ce qu'on
raison.
Fait de ce pays?
Mais déjà le nôtre,
mais pourquoi
aussi,
mais on ne peut pas vivre, on peut pas vivre comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas gouverné.
Mais qui, si
vous voulez, moi, depuis très longtemps, ils s'en foutent. Nos dirigeants, que ce soit la droite ou la gauche, parce que c'est une histoire qui date
même plus grave,
de 1980.
Il n'y a pas, attention, je reprends pas du tout les éléments de l'opposition, mais quand vous saviez que ça allait déraper à ce point et qu'il y a eu un audit sur pièce et sur place, qu'est-ce qui s'est passé
Charles
pour qu'on ne soit pas au courant,
qui est un député respectable lorsqu'il parle de finances publiques, il a quand même dit que jamais on a vu ça dans l'histoire de la Ve République. C'est-à-dire, vous faites une prévision de déficit et vous dites, pardonnez-moi, j'avais oublié 18 milliards d'euros. Donc c'est du jamais vu. Mais pour qu'on prenne bien conscience, moi je suis très admiratif de la déclaration de Gabriel Attal. Parce qu'avec son jeune âge, il maîtrise la façon de brouiller les pistes, voire de mentir, qui sont absolument exceptionnelles. Il dit un truc vrai. Il dit, un État qui est endetté ne peut plus investir. Alors nous, on n'est pas endetté, on est surendetté. On est surendetté. Est-ce que vous savez, j'imagine que vous le savez, que le premier budget de l'État avant le budget de l'éducation nationale...
Non, ce n'est pas encore le cas.
Ça sera le service.
Il ne faut pas exagérer quand même.
J'exagère pas. C'est Bruno Le Maire qui a annoncé ça pour 2027.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais attendez, on emprunte encore cette année 285 milliards d'euros. 285 milliards d'euros.
Mais n'en jetez plus.
Mais ce sera plus vraisemblablement.
Mais en fait, quand il dit la situation est sérieuse, mais la situation n'est pas sérieuse, on a les agences de notation. La première salve, ce sera le 26 avril, avec Moody's et Fitch. Alors, il y a des gens qui vous disent « mais ça ne changera rien sur le coût du crédit ». Ah bon, alors pourquoi est-ce qu'il y a un vent de panique à Bercy en réalité? Donc il y a quand même tous ces sujets-là. Et puis parlons-en, il a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Assurance chômage, les 4 jours, on ne sait pas si vous travaillez plus ou moins.
Rappelez que l'assurance chômage est bien gérée par les partenaires sociaux.
L'UNEDIC est même en excédent.
Oui, donc c'est bien géré. Donc effectivement, si l'État commence à mettre sa main... on a des inquiétudes à avoir.
Expliquez-moi. Vraiment, je vous pose une question de béotienne. Je reconnais, c'est pas tellement mon domaine, donc j'apprends sur ces sujets-là. Comment des gens qui étaient spécialisés, Mozart de la finance, mais qui viennent de domaines où moi, je n'ai pas beaucoup de domaines, mais je connais mon métier. C'est leur métier.
D'abord, je dirais, si on prend l'exemple du général de Gaulle qui connaissait rien à l'économie, rien. Il s'est fait expliquer ça par un professeur qui s'appelait Jacques Rueff. D'ailleurs, il faudrait lui mettre des statues partout, parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu cette énorme croissance en France. Il faut bien voir, la 4e République, quand De Gaulle arrive au pouvoir, on a 15% d'inflation, il y a des déficits partout, etc. Et De Gaulle comprend cette phrase toute simple que Barre répétait toutes les 5 minutes, mais les Français avaient fini par l'apprendre à l'époque, parce que lui, Barre, il faisait de la pédagogie, Giscard un peu aussi, mais je pense que les Français comprenaient mieux Barre. Un pays ne doit pas dépenser plus qu'il produit. Bon, la France produit.
Eh bien, je vais vous dire, je vous ai compris.
Beaucoup moins
c'est
qu'elle dépense.
Comme ça.
C'est toujours la stratégie de la cigale. C'est une stratégie à court terme.
Là, c'est
absurde.
Quelle colonie de cigales.
Emmanuel Macron, on peut dire, effectivement, Mozart de la finance, tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec le métier de gouverner. Le métier de gouverner, c'est de savoir dire non. C'est vrai dans une entreprise, c'est vrai à la tête de l'État. De dire non aux dépenses, non. De dire non aux Français parce qu'ils veulent ceci, ils veulent cela.
Vous avez entièrement regardé, écoutez le cynisme. Gabriel, je voudrais vous faire réagir. Hier, quand même, interrogé Gabriel Attal, ils lui disent, mais c'est pas possible, c'est abyssal. Il dit, oui, mais nous, on a protégé nos citoyens. Parce que la question lui a été posée, il lui dit, regardez la Grèce, l'Espagne, tout le monde fait mieux. Il dit, oui, mais nous, on a protégé... Mais enfin,
Non, mais c'est faux. Attendez, vous savez pourquoi? Parce que les autres, ils ont reculé. Vous regardez, l'Allemagne était dans une mauvaise situation l'année dernière. Ils ont tout rattrapé l'année d'avant, pardon.
Depuis 2017, pardonnez-moi. Depuis 2017, je vais vous donner le chiffre, hein, parce qu'il est officiel.
Ne vous énervez pas.
Non, mais parce que quand j'entends Gabriel Attal nous servir des trucs et que tout le monde est là en train de dire, mais c'est le Premier ministre, il dit la vérité. Depuis 2017, la dette française s'est creusée de 1000 milliards d'euros. Si vous enlevez le plan de relance, le financement du Covid et l'aide à l'Ukraine, allez, vous enlevez 250 milliards. Voilà. Le restant, les 800 milliards, avec des services publics qui s'écroulent. Mais je ne sais pas ce que nos...
Non, mais je veux dire, vous avez entièrement raison. Je veux
pas... C'est notre modèle, c'est assumé.
Qu'est-ce qui est assumé, d'aller droit dans le mur?
Les élites et les gouvernants peuvent leur taper dessus, mais ça serait bien de faire le procès de la génération Météor qui a liquidé leurs anciens et hypothéqué l'avenir de leurs enfants, parce que nos gouvernants ont été élus. Donc la génération Boomer faudra peut-être leur faire un procès un jour. Mais ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Boomer, c'est moi alors.
C'est nous.
Je suis le Boomer de
depuis 40 ans, le modèle économique français repose sur trois piliers. La consommation de masse, et c'est pourquoi le mot le plus important pour un politique, c'est croissance et pouvoir d'achat. L'immigration, parce que ça alimente la consommation et ça remplace les consommateurs quand la démographie est en berne. Et qu'est-ce qui finance tout ça? C'est la dette. C'est assumé. C'est-à-dire que l'État rend solvable des gens qui ne le sont pas. Donc, quand on dit que ce n'est pas maîtrisé, mais évidemment que c'est maîtrisé, ils savent pertinemment. C'est notre principe économique.
Donc c'est voulu.
Vous dites, on va faire de la rénovation énergétique. Chaudière à 1 euro, ça coûte 15 ou 20 000 euros. Qui finance? L'État. Il finance qui? Des logements pauvres, de gens qui n'ont pas les moyens. C'est notre logique économique est comme ça. Elle repose sur la dette. Sauf que là, c'est une dette à crédit. Et avec les taux d'intérêt qui augmentent, c'est bien compliqué.
Gabriel,
non, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte des conséquences politiques de cette annonce. Vous dites, tout le monde s'en fout de la dette. Psychologiquement, tout le monde, non, ne s'en fout pas du tout. Et d'autant plus qu'Emmanuel Macron a appuyé quand même toute sa campagne là-dessus. Tout son argumentaire, c'était de dire aux gens, et notamment à son électorat plus âgé, attention pour votre portefeuille. Marine Le Pen, c'est une cocarde. Si vous le laissez passer, eh bien, je fais référence au mot utilisé par Nicolas Dupont-Aignan, je crois.
Oui, voilà. Mozart, les tocards.
Voilà. Et donc, si vous la laissez passer, ça va être une catastrophe pour votre portefeuille. Donc là, évidemment, l'argumentaire a du mal à porter. Moi, je suis très choquée par les déclarations de Gabriel Attal. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de roublardistes quand il dit on a supprimé la taxe d'habitation, on a augmenté la taxe foncière et les résidences secondaires qui, elles, occupent très peu, habitent très peu, les habitants de résidences secondaires continuent à le payer. La redevance télé, c'est pas vrai, parce que si on finance toujours la télévision publique, donc c'est simplement la ligne budgétaire.
Exactement.
Donc c'est évidemment de l'enfumage. Et puis surtout, c'est une espèce de, si vous voulez, de père de famille qui dit à ses enfants, écoutez, vous allez être au pain sec et à l'eau, parce que l'allocation chômage, la réduction du remboursement des soins de longue durée, etc. Mais moi, je continue à mener un train de vie princier, parce qu'il n'y a eu aucun examen de conscience sur le train de vie de l'État. Et puis surtout, je continue à faire...
Il y a eu, mais il a été léger, on va dire.
Par exemple, les ARS, hein, les agences régionales de santé. Dieu sait, si on leur a cassé du sucre sur le dos pendant le Covid, écoutez, elles ont fait le dos rond, elles ont eu raison, plus personne ne s'en occupe.
Exactement.
Et la gabegie reste, hein, ça reste l'usine à gaz. Et puis, on continue à donner à l'extérieur. Donc, alors, c'est 3 milliards à l'Ukraine, là, 1 milliard à l'Amazonie. Vous imaginez l'effet que ça peut faire sur les Français. L'aide publique au développement, c'est combien? C'est plus de 13 milliards. Oui. Et on donne notamment à la Chine. Vous croyez que les Chinois, ils ont besoin de nous? Écoutez, tout ça, comment voulez-vous que ce soit bien vécu par les Français, alors qu'en même temps, on leur dit, écoutez, les allocations chômage, quand même, vous êtes un peu, vous exagérez un peu.
Le sujet passionne. On continue à en parler après les titres de Mickaël.
L'État va porter plainte contre une élève qui refusait d'enlever son voile islamique au lycée Maurice Ravel à Paris. Une plainte pour dénonciation calomnieuse après qu'elle ait accusé son proviseur de l'avoir violentée pendant leur altercation. Le nombre de permis de construire poursuit sa chute pour le mois de février avec une baisse de plus de 20% sur un an. Des chiffres qui confirment une profonde crise de la construction comme de l'ensemble de la filière du logement. Et puis jeudi, ça oblige, le pape François célébrera cet après-midi la traditionnelle messe dans une prison romaine pour femmes, une messe qui commémore le dernier repas du Christ avec ses disciples.
Avant de prendre la direction de Nice, vous vouliez ajouter quelque chose de plus sur la dette?
Bien sûr, non, parce que si vous voulez, on a une lecture extrêmement, je trouve, restrictive de la question de la dette, et Gabriel Attal l'a prouvé aux 20h. C'est-à-dire que Le gouvernement Attal, comme tous les précédents quasiment depuis Jacques Chirac, ne traite la dette qu'à travers la question des recettes et des dépenses de l'État. Et on nous dit il faut réduire les dépenses sociales, il faut supprimer des postes de fonctionnaires. Alors le discours sur la suppression des postes de fonctionnaires, de police, les infirmières, etc., aujourd'hui c'est un peu plus difficile compte tenu du contexte de crise sociale du pays. C'est difficile, absolument, mais c'est difficile aujourd'hui d'assumer ce discours-là. Par conséquent, on a toujours eu cette lecture-là. Mais, Franz en a un petit peu parlé en parlant du gaullisme, une politique économique gaulliste qui serait basée sur la production, ça, bizarrement, on n'en parle quasiment jamais. Alors que la clé de voûte de la réduction de la dette, et ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans des rapports du Fonds monétaire international très sérieux, parfois même, le remède peut être pire que le mal. C'est-à-dire que le raisonnement qui est seulement centré sur la réduction des dépenses publiques, y compris des dépenses sociales, peut même contribuer à faire baisser la croissance. Oui. Par conséquent, le but d'une bonne politique, c'est un pays producteur, c'est une souveraineté économique. Notre souveraineté économique, elle sera garantie quand on arrêtera d'avoir 50% de notre dette.
Le bateau a pris juste là-dessus. Notre direction.
50% de notre dette qui est détenue effectivement par des capitaux étrangers. Le Japon est endetté à 200 et quelques pourcents. Seulement, c'est pas la même dette que nous. C'est pareil pour les Américains. Ils ont une dette plus haute que la nôtre, mais c'est pas la même dette. Par conséquent, c'est un problème de souveraineté, c'est un problème de politique économique. Or, ça, ça demande de regarder un peu plus loin que bien, on va aller faire les économies ici et là. Alors effectivement, après, on peut trouver des sources d'économies, notamment, moi je pense par exemple spontanément aux collectivités territoriales, là il y a peut-être moyen de faire de bonnes économies sans gréver la croissance.
Aussi,
et j'ai quelques autres exemples, notamment sur le sein de l'État.
Il faut lancer un grand emprunt, Pinet, Giscard, Balladur 83, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez
les livres.
C'était le grand emprunt de Nicolas Sarkozy.
Mais vous avez une énorme épargne en France, assurance vie qui dort parce que les Français ont peur pour l'avenir.
Mais oui, mais il y a de quoi.
Mais ça permettrait de...
Il faudrait que l'épargne des Français finance...
Ne touchez pas à notre bas de net.
Pas du tout. Je vous propose un emprunt d'État. Ça permettrait de regrouper un peu les Français autour d'un sentiment national.
Non, mais c'est vrai ce que dirait. Et ça serait le carburant dans la machine économique.
Je voudrais répondre sur les boomers. Parce que ça, c'est quand même la grosse connerie. Je suis désolé, mais bien sûr, on entend tout le temps.
Ce sont les générations qui ont fait faute passée, hypothéquer l'avenir de nos enfants.
Ce sont les boomers qui ont fait. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, ce ne sont pas tous les boomers, parce qu'on est quand même quelques-uns. Non, mais bien sûr, c'est une généralité idiote, comme toutes les générations.
Non, c'est pas idiot, pardon. Vous êtes la seule génération à avoir flingué votre passé et l'avenir en même temps.
Non, mais c'est tellement con de parler comme ça.
Non, c'est factuel, pardon.
C'est une génération. C'est pas vrai.
Bah, c'est une génération.
Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a.
Je respecte. Mais non, parce que leur procès n'est pas charitable.
Mais non, mais ça, ce sont les jeunes, vous savez.
Enfin, il n'est plus tellement jeune non plus.
Il caricature les vieux, vous n'êtes pas obligé de caricaturer les jeunes. Disons qu'il y a.
Non, mais ce sont les jeunes, certains. Mais bien entendu, c'est tellement évident. Il y a des jeunes formidables. Enfin, non, mais on ne peut pas. On peut pas dire une génération qui a sacrifié l'autre. C'est pas vrai. En plus, moi, j'étais très critique sur cette génération. J'ai toujours été très critique avec cette génération globalement. Mais c'est pas vrai. Le vrai sujet, c'est quoi? Et ça, vous l'avez pas abordé. C'est le mensonge permanent. Le discours général, à droite comme à gauche, selon lequel c'est la dette qui générerait de la croissance. Voilà. C'est le discours le plus stupide qui soit.
Mais comment on le déconstruit ?
Ce discours-là, vous l'avez partout.
Je suis d'accord.
Partout. Et vous avez même les nouvelles générations. Ils apprennent ça à l'école. Exactement. Partout. Donc les jeunes aussi parlent comme ça. Ils vous disent, vous avez vos enfants, ils vont vous dire, il faut s'endetter pour croître. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ajouterais quand même un petit bémol à ce qu'a dit Paul. Je pense qu'il faut gérer bien. Pour avoir de la croissance. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le général de Gaulle, 1958, le plan Rueff présenté par Pinet, qui était, on appelle ça Pinet-Rueff, enfin c'était le plan Rueff, grand économiste, qui est un plan de rigueur, Maus, puissance 1000.
Avec beaucoup d'investissements publics.
Mais non, ça va après, c'est-à-dire que l'endettement, évidemment, on est tous pour l'endettement quand il s'agit d'un endettement d'investissement. Oui. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Joe Biden aux États-Unis.
Mais nous, c'est des dépenses sociales qu'on n'arrive pas à mettre dans le budget.
Nous, c'est pour boucher les trous.
Ah oui, voilà, ça, je suis d'accord là-dessus. Non, je suis d'accord là-dessus, mais l'investissement, c'est fondamental.
Depuis quand on est déficitaire dans ce pays?
1980. 1980. Non, non, 1980. Mais non, parce que là, il faut recontextualiser. Vous avez eu un drame économique, d'ailleurs un double drame économique, c'est ce qu'on appelle les chocs pétroliers, 1973-1979. Mais ils ont été si bien gérés par l'équipe au pouvoir, à l'époque c'était Giscard et Barre. Mais non, mais attendez, je regarde les chiffres. Après, il y a eu beaucoup de chômage à l'époque, c'est vrai, chômage de masse, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Ben, vous savez pas, enfin là, pour le coup, les chocs pétroliers, c'était la fin du monde. Je sais pas si vous vous souvenez, vous étiez trop petite pour ça, mais les chocs pétroliers, c'était la fin du monde.
Inquiétant, passionnant, et puis qui engage notre avenir. Je voudrais, avant de marquer la pause, écouter ces habitants. Donc, je vous parlais de Nice en quelques mots. Fusillade, rixe d'une incroyable violence, quelques interpellations, on ne sait pas encore quelle suite judiciaire. Écoutons quelques habitants au micro de CNews.
Moi, je vois un quartier qui vivait et qui se détruit. On voit des élus qui n'apportent rien. On voit des politiciens de tous bords qui n'apportent rien, uniquement quand il y a des élections. Et là, on veut voir vraiment du concret sur le terrain. On veut reconquérir, comme j'ai dit, notre territoire. Et notre territoire, c'est le quartier des Moulins.
Qu'est-ce que ça vous inspire, les opérations Place Nette ?
C'est pas suffisant pour nous, c'est pas suffisant parce que en fait c'est déplacer le problème. Il y a des années j'ai déménagé du quartier et j'avais expliqué que c'était pas le béton qu'il fallait travailler mais les gens. Et en fait on en est arrivé à déplacer, à travailler du béton, pas travailler les gens, et on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui.
Tu es un mec qui est poursuivi par la justice.
Le direct, nous sommes en direct, la suite de cette émission. On accueille, et ce sera dans quelques minutes, on va en parler, notre compteur royal, Bertrand Decker. Eric. Tout va bien.
J'attends parce que ça finit par nous occuper l'esprit, cette affaire de Kate.
Non, mais oui. Ouais. Vous allez voir, ils ne vont pas être présents. Kate ne sera pas présente, ni William à la messe. Et vous allez nous en parler. D'ailleurs, autour de cette table, est-ce que vous avez déjà rencontré un roi ou une reine ? Mis à part moi, je plaisante.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non,
ça m'arrive le midi. Mais...
Non, mais
François Mitterrand.
Ah, bah oui, forcément, en tant que vieux boomer. évidemment, j'en ai rencontré beaucoup, mais notamment la c'était vraiment une femme extraordinaire. Je ne laisserai personne dire que c'est une vieille conne, par exemple, là, à ma gauche. À ma gauche, pour une fois qu'il est à ma gauche, c'est la reine Elisabeth.
Ah, j'aime beaucoup.
C'était une femme. Vu de loin, je veux dire, enfin, je l'ai salué, je l'ai revu, etc. Dans plusieurs dîners, vous savez, des genres de dîners d'État, là, qu'on fait, qui sont des trucs très barbants. Et les gens qui étaient à côté d'elle, enfin, moi, j'ai changé quelques paroles, pas plus. Mais les gens qui étaient à côté d'elle se bidonnaient parce qu'elle avait une conversation, c'était vraiment une grande dame. Non, après, évidemment, j'en ai sans doute rencontré des vieux, des anciens, c'est vrai Elisabeth. Que c'est elle m'a. Non, mais.
La reine de Jordanie.
Non, mais.
Pareil.
Ah, bah oui.
La reine de Jordanie, oui.
Moi aussi.
Voilà. J'ai un petit. J'ai un peu oublié. Ah, bah,
ouais. Nous avait offert, parce qu'on était plusieurs journalistes, alors il n'y a pas du tout de collusion, mais un petit. Une espèce de petite boîte en acre.
Il faut les rendre, ça, non? Je voulais les garder.
Il y a des émissions, on offre des cadeaux. Ici, c'est à peine si vous avez un verre d'eau. Donc, c'est déjà ça. Les titres, on continue à parler avec vous, Mickaël.
Les chiffres sur la fraude à l'assurance maladie viennent de tomber et ils sont édifiants. Selon la Caisse nationale, 466 millions d'euros de fraude ont été détectés par les services de l'État. Pour Emmanuel Macron, il faut en finir avec le Mercosur. Il trouve cet accord commercial très mauvais pour l'Union européenne et pour les Sud-Américains. Le Brésil, quant à lui, défend coûte que coûte son adoption. Et puis une attaque de drones a fait 2 blessés tôt ce matin à Zaporijjia en Ukraine. Kiev précise avoir abattu 26 des 28 drones d'attaque lancés dans la nuit par la Russie. Des frappes qui visaient des zones résidentielles de cette région ukrainienne.
La classe politique et médiatique a une énorme responsabilité dans la fabrication d'un récit qui ne colle pas souvent à ce que vivent les habitants, notamment dans le quartier des Moulins à Nice. Regardez ce qui s'est passé en quelques jours. Imaginez ce concentré de violence et d'hyperviolence résumé par Franck Trivio. Alors, très bien. On verra le sujet dans quelques instants. Malheureusement, on peut le résumer en quelques mots. Une fusillade, une rixe d'une hyper-violence et puis les habitants qui entendent parler de Place Nette, pas très loin. Regardez, le sujet est arrivé.
Lundi soir, dans le quartier des Moulins à Nice, aux abords d'un point de deal, des coups de feu sont tirés. Mardi, c'est un affrontement d'une rare violence qui éclate sur la place des Amaryllis. Face à cette situation, la CRS 81 a été déployée sur place. Une présence nécessaire mais insuffisante pour de nombreux riverains.
On pourrait peut-être envisager d'envoyer l'armée de manière même provisoire dans ces endroits pour faire établir l'ordre et la loi.
La police, on sait qu'elle a souvent des problèmes quand elle intervient. Est-ce que la force sentinelle, c'est une bonne solution? Je pense que oui, ça peut remettre de l'ordre dans ces quartiers. Mais avant tout, il faut que la justice intervienne.
Le déploiement de l'armée, la municipalité de Nice y est favorable. Elle se dit prête à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité, alors que la situation se dégrade de jour en jour dans le quartier.
Ça fait 40 ans que je suis dans le quartier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus notre époque, c'est fini. C'est fini. On a honte. Voilà, c'est tout. On regarde et on ne peut rien faire. Voilà, on subit.
Excédés par la violence et le trafic de drogue, certains habitants assurent ne plus vouloir se laisser faire.
Je ne sais pas quelle question il faut poser face à l'ampleur de ce défi. Je ne sais pas.
Alors Nice, donc moi j'ai vécu pendant plusieurs années, c'est une ville que j'ai sentie en train de basculer. Alors je n'irai pas dans une hyper-violence, mais on est définitivement beaucoup plus loin de la simple carte postale, de la promenade des Anglais, etc. Alors là on parle du quartier des Moulins, mais vous avez d'autres quartiers alors, où il y a du trafic de drogue. Là, je pense à l'Ariane, je pense à la Splanas ou au quartier du Pont-Michel. Et en fait, dans ces quartiers populaires où la population souffre des trafics de drogue, vous avez maintenant au grand jour des choses qu'on entendait parfois. Moi, quand j'étais sur place, il y a eu une fusillade devant un supermarché. Et vous savez pourquoi c'est important à Nice? Parce que vous avez une population de riches étrangers dont pour les problèmes de sécurité qui est plus important. Mais il y a autre chose qui rend Nice une ville encore plus... À l'écoute de tout ça, c'est que c'est une ville martyre, Nice, ne l'oubliez pas. Il y a eu ce 14 juillet, avec l'événement que vous savez. Il y a eu plus récemment l'attaque de la basilique. Oui. Et pourtant, Christian Estrosi a mis un système en place. Par exemple, dans les rues de Nice...
C'est les fameuses bornes.
Alors, c'est même les bornes, c'est les boutons d'alarme. Vous pouvez appuyer et la police municipale vient dépêcher. Mais là où on voit que le problème a pris une dimension tout à fait différente, c'est qu'Anthony Boré, qui est donc le premier adjoint de la mairie de Nice, dit qu'il faut envoyer l'armée. Et vous voyez, là, ça veut dire que c'est.
Il y a une sorte de contrôle. Un militaire qui est haut gradé, il me dit mais.
Oui.
Ça veut dire que
la violence est devenue hyper
violente avec la drogue. Là, c'est le problème de l'État. C'est-à-dire, si on regarde bien, je regarde les chiffres sortis dans le Figaro d'aujourd'hui, qui sont très intéressants, sur les villes où il y a le plus de délinquance, de délits, de crimes, etc. C'est rapporté au nombre de logements. Hein, c'est un taux rapporté pour 1000 logements. Bon, ben vous avez en tête Aix-en-Provence, Marseille, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montreuil, Grenoble, Lille, Argenteuil, Paris, Villeurbanne. Oui, mais c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à Aix-en-Provence, il y a beaucoup de tourisme, et à mon avis, ils viennent d'ailleurs, si vous voulez ce que je veux dire. Bon, je ne balancerai pas,
pas la peine.
En revanche, sur Nice, c'est de ce point de vue, sur la sécurité, c'est une ville qui, jusqu'à présent, a toujours été bien gérée. Et là, on voit effectivement que l'État était bien géré, notamment par la vidéosurveillance très critique par les municipalités de gauche à l'époque. Tout le monde le fait aujourd'hui, c'est obligé. Et finalement, ça a bien fonctionné. Le problème là, c'est qu'on rentre effectivement dans une sorte d'industrie de la drogue. Et c'est effrayant et ça ne peut pas être traité par la police municipale. Tout le monde l'a compris. C'est forcément une histoire d'État. Écoutez, l'État doit s'impliquer.
Mais oui. L'ancien procureur général auprès de la Cour de cassation, François Molins, qui était avant chargé de l'antiterrorisme. Bon, il est auditionné lors d'une commission d'enquête au Sénat. Mais ils disent tout, en fait, en réalité. Parfois, on nous dit, certains, mais sur vos plateaux, on dit des choses, c'est pas la réalité. Mais c'est dit par les responsables eux-mêmes.
Ils sont engueulés, du coup.
Ils sont engueulés
par leur ministre de tutelle.
Par le ministre, voilà.
Ils sont engueulés, mais ils sont courageux.
Sonia, relisez le verbatim de la commission d'enquête sénatoriale avec les 9 magistrats marseillais.
C'est horrible.
Cartélisation, sud-américanisation, mais de toute façon, les habitants le disent. La mère de la petite Socaina qui a reçu une balle perdue, elle a dit, mais est-ce où on est? En Colombie?
Mais le cartel de Medellin est revenu. Hein. Parce que le marché américain est saturé. Donc le cartel de Medellin est revenu en France.
Sauf qu'à l'époque de la French Connection, bah, le marché a explosé, donc on n'est pas sur un truc qui est visible, on est sur un marché avec plein de ramifications différentes. Oui. On est sur des chiffres d'affaires qui est aussi entre 3 et 6 milliards d'euros, donc par an, donc ça peut intéresser pas mal de gens. Et vous avez surtout, avec l'immigration, vous avez plein de voies, en fait, pour apporter de la drogue. Par exemple,
les mineurs isolés.
Toute la partie héroïne qui vient par les Balkans, vous avez les diasporas turcs et albanaises qui sont dans les moyennes villes, Reims, Annecy, Dijon, et c'est pour ça qu'il y a Dijon, ça carnarde de tous les côtés, parce que les diasporas accueillent cette héroïne-là, ce qui fait que le prix baisse. Par la cocaïne, ça passe par la Guyane française, parce que la route vénézuélienne, elle est foutue, donc ça passe par la Guyane française. Vous savez ce qu'a fait le parquet de la République l'été dernier ?
Non,
ils ont dit, pour lutter contre le trafic de la Guyane qui passe par les Surinamaises, qui en plus en profitent pour avoir la nationalité, on va arrêter de poursuivre les saisies en dessous de 1,5 kg. Alors, comme ça a fait un scandale, ils ont dit, finalement, on va le refaire, mais c'est vous dire le volume qui transite. Et vous avez avec ça, en plus, tous les grossistes, les agences, parce que vous avez les agences, les grossistes, les cartes de fidélité, les réductions en fonction de qui vous achetez, plus les listings qui sont vendus, parce que tout passe par Telegram, WhatsApp, et que vous avez... Même il y avait Caliweed, qui était un réseau qui a été enfin démonté par la police, mais des réseaux comme ça, il y en a plein, et c'est le principe de Uber, en fait. Et les listings de gens riches, consommateurs, se vendent très très cher.
C'est
partout dans toute la France.
Dans ce monde, il faut, avec tout ce qu'on vient de décrire, il faut s'accrocher à ce qui dure, perdure, demeure. C'est la couronne, madame. Je passe à un autre sujet difficilement.
Avant de venir à des sujets, j'allais dire plus légers, parce qu'ils sont
même
pas finalement.
Même plus.
Mais si vous voulez, le fait qu'on veuille appeler l'armée. C'est assez significatif. Moi, je ne crois pas que l'armée soit adaptée dans la situation, mais je comprends cette envie. Et ça veut dire quoi ? Quand on appelle l'armée, c'est que la nation est en danger. La police, c'est intérieur. L'armée, c'est des dangers extérieurs. Nous avons un pays qui, sous les coups de boutoir de la mondialisation, la circulation des biens et des personnes, dont fait partie l'immigration, est en train de s'effondrer. Et on parle de Nice, mais hier c'était de Marseille. Alors on pousse des cris, des O, des A, la promenade des Anglais, la canne-bière, tout ça c'était fantastique, Marcel Pagnol, etc. Sauf que ça n'existe plus, c'est en train de se dissoudre. Et pourquoi veut-on appeler l'armée ? Parce qu'on sent bien que c'est tout un pays qui est en train de s'effondrer et c'est bien un danger extérieur.
D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'en quelques semaines, on est passé d'un débat sur les militaires, nos soldats... à envoyer peut-être sur le sol ukrainien. Ah, on en a besoin
d'ailleurs,
d'abord.
C'est un don d'ubiquité, ces militaires, parce qu'on va les trouver où, tous ces soldats-là ?
Nous sommes d'accord. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de leur rendre hommage, de leur tirer notre chapeau, évidemment, comme aux forces de l'ordre.
Nice, c'est une très belle ville.
Mais bien sûr.
Magnifique, avec un excellent maire. Ben oui. Christian Estrosi, la ville a été. Non, mais ce qui est affreux, si vous voulez, dans cette affaire, j'ai le droit de le dire. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que c'est une ville qui s'est complètement métamorphosée, qui est une ville extrêmement dynamique, et puis qui a cette merveilleuse coulée verte, qui est
un merveilleux salon du livre.
Il y a un énorme problème dans cette ville. Il y a un énorme problème dans cette ville, qui est un problème conjoncturel, tous les services de l'État devraient s'en occuper.
Il y a encore quelque chose qui va rester dans ce monde. Est-ce que la couronne, au moins, sera préservée ? Monsieur Descaires, bonjour.
J'espère, moi.
Alors, l'affaire est... Non, mais là, évidemment, c'est donc... Il y a quelques semaines encore, quand nous parlions de ce sujet, vous étiez la parenthèse respiration. Là, malheureusement, évidemment, eu égard à ce qui arrive à Kate, c'est un tout autre sujet. William et Kate ne seront pas présents à la messe de Pâques. C'est incroyable parce que c'est la première fois, en tous les cas, depuis à la fois la mort de la reine et depuis qu'ils sont ce qu'ils sont. Comment vous analysez ça ? Est-ce que c'est une volonté de se protéger, simplement, aussi des médias, des regards ?
Oui, elle est partie vendredi, juste après la diffusion de cette vidéo qui avait été enregistrée 3 jours plus tôt. Elle a été donc publiée vendredi dernier, cette vidéo. Ils sont partis directement pour le Norfolk. C'est vraiment la campagne anglaise, à proximité du château de Sandringham. Dans le but, vraiment, d'échapper au regard. Absolument, puisque c'est un manoir qui a été offert par Elisabeth II à l'occasion de leur mariage. Bref, mais avec un parc énorme où vraiment il est impossible de pouvoir les photographier. Alors que ça a été possible, souvenez-vous, d'ailleurs, il y a eu une photo volée paparazzi lorsqu'ils étaient à Windsor dans leur cottage d'Adélaïde. Donc ça démontre bel et bien, de la part de la princesse de Galles, qu'elle souhaite être à l'abri des regards, de la curiosité. Elle termine d'ailleurs ce fameux discours que l'on voit là en disant « S'il vous plaît, j'ai besoin de temps, laissez-moi du temps, voilà, je serai encore absente pendant un moment. » Alors vous le dites, c'est interpellant, cette absence lors de la messe de Pâques, ce que les Anglais appellent les « sung matins », les matines chantées, parce que depuis leur mariage, ils étaient présents. C'est après la messe de Noël, le rassemblement vraiment de la famille royale le plus complet, puisque pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si Charles est roi, il est également chef de l'Église d'Angleterre. Et c'est à ce titre-là que la messe de Pâques est importante. Alors, on verra comment ça va se dérouler. En tout cas, évidemment, l'absence va être scrutée et elle va être frappante parce que Kate marquait vraiment cette image glamour et cette légèreté, ce dont les Anglais aiment tant.
C'est-à-dire qu'avec Camilla, c'est autre chose. Mais enfin, je ne vais pas juger, ce n'est pas mon propos.
Comment les enfants sont scolarisés? Alors, comment vont-ils à l'école? Comment va-t-elle suivre son traitement, etc.? Elle ne peut pas rester à la campagne en permanence?
Là, pour l'instant, ils sont en pleine vacances de Pâques, qui se terminera le 17 avril. Et puis, ils reprendront vraiment à la Ludgrove School, là où ils sont scolarisés, qui est une école publique même. Hein, elle a vraiment milité pour cela. Ils reprendront vraiment leur scolarité plus ou moins normale. On dit aussi qu'il y a deux bruits qui circulent, qu'ils ont voulu en effet publier cette vidéo le vendredi pour justement laisser pendant 3 semaines les enfants dans l'intimité aussi et ne pas avoir la curiosité de leurs petits camarades. Il y a un autre bruit qui nous dit que c'est probablement plus parce qu'on a très peur que le dossier médical ait été hacké, ait été ouvert et que Kensington a préféré reprendre la main sur le fait d'annoncer lui-même le cancer.
Alors qui va être présent? Évidemment le roi qui est aussi atteint d'un cancer.
Et que l'on n'a plus vu depuis, en effet, que ce cancer est publié. En tout cas, que l'on n'a plus vu de façon publique, si je peux dire. On l'a vu en vidéo, on l'a vu en photo, on l'a vu à travers les vitres de sa fameuse Bentley, mais il n'a plus été en contact avec la foule. Alors, il y a un dispositif quand même exceptionnel qui a été mis en place pour dimanche, parce que si normalement, je vous le disais, toute la famille y assiste en grande délégation, là, on a bien vu qu'il ne va y avoir vraiment que le noyau dur, vraiment les Windsor très, très rapprochés. Pourquoi, nous dit-on, il n'y aura même pas de bas de foule, alors que normalement, c'est la tradition à la sortie de cette messe de Pâques. Pourquoi? Parce que tout simplement, le roi, on pense à une immunité qui s'est affaiblie avec le cancer et qu'il préfère limiter les contacts.
Parce que je sens que François-Olivier Gisbert a envie d'écrire, et ça c'est tout à fait... D'ailleurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de sujets, en tous les cas, de Sa Majesté qui a envie d'écrire à Kate et qui peuvent lui envoyer une lettre.
Mais absolument. Et
on a l'adresse.
Je reçois des dizaines, et le mot est faible, des centaines de messages de gens qui me disent, Bertrand, où peut-on écrire à la princesse de Galles? Et je ne suis pas peu fier de moi, je vous donne là.
Mais on est fier de vous.
Adélaïde Cottage, c'est vraiment leur endroit de résidence. Je ne vous donne pas l'adresse du bureau officiel. Oui. Donc vous écrivez à Son Altesse Royale la Princesse de Galles, si vous êtes vraiment aguerri avec l'anglais, ce sera Here, Royal Highness, the Princess of Wales. Et alors vous écrivez à Adélaïde Cottage, qui est à Windsor Great Park, voilà, et vous avez toutes les indications. Elle ne comprend pas difficilement le français, mais en tout cas vous pouvez écrire en français, d'accord. Vous recevrez en tout cas une réponse, c'est certain. Et alors beaucoup me demandent s'il faut glisser un timbre à l'intérieur. Non, absolument pas. Ils se chargeront de tout.
Et vous l'avez déjà écrit, vous l'avez déjà rencontré?
Je l'ai vu, parler c'est difficile. Je l'ai croisé. Oui, j'ai absolument écrit à cette adresse et j'ai reçu une réponse. Et
avez reçu une réponse?
Oui, mais alors pas vraiment du secrétariat qui est en charge.
Même c'est pas mal, ne minimisez pas les choses.
Il se dit quand même qu'elle... Certains courriers ont la chance d'obtenir une réponse de la main même de la princesse qui est au repos, donc elle a un peu plus de temps.
Oui. On devrait essayer.
On verra bien à qui elle répond.
On verra bien à qui elle répond.
On estime en tout cas à plus de 50 000 lettres.
Non, mais elle recevrait plus de 50 000 lettres. C'est un prompt rétablissement.
Ça, dans la rédaction.
Ça montre à quel point les Anglais sont touchés par cette annonce de cancer.
Eh oui, tout le monde l'aime.
Tout le monde l'aime. Maintenant, vous savez, dans ce monde de Kardashian, il y a Kate Middleton. Ah,
Kardashian, bravo. Couronnée. Voilà.
Bon, et puis après le...
Vous me racontez votre anecdote avec la reine Rania Jordanie.
Nous, on fait partie de cette génération où on allait chercher les œufs en chocolat.
Ah oui, Pâques, c'est vrai.
Après les rameaux, c'est
bon. Je vous les ai glissés dans le studio.
On l'a fait faire à nos enfants aussi.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais petit détail, la tonne de chocolat vaut plus cher que la tonne de cuivre. Vous avez vu ça?
J'ai vu ça.
Donc là, ça va encore aller, mais il paraît
sujet de débat,
pour
d'ailleurs.
Pâques, les œufs, le prix des œufs, bah.
Non, mais c'est un vrai sujet, parce que je voyais un reportage hier dans le 20h de TF1, avant de suivre M. Attal, où beaucoup de familles qui voulaient acheter un chocolat de qualité, je ne dis pas qu'il ne l'est pas dans des grandes surfaces, mais achètent un autre chocolat, etc. Et ça participe d'une situation difficile également. Voilà. C'est important d'en parler aussi. Merci de nous amener un peu de...
Vous parliez de la reine de Jordanie. Ben on souligne que cette semaine-ci, la belle Rania, elle fête les 25 ans d'accession au trône. 25 ans déjà que Rania.
25 ans, incroyable. Elle n'a pas changé. Hein.
Donc vous pouvez lui écrire aussi pour la féliciter.
Ne l'encouragez pas parce que là, il va avoir envie de l'écrire.
Et lui dire que j'ai toujours sa petite boîte.
Voilà. Ouais, elle s'en souvient. C'est un souvenir ému.
Sur la table de chevet.
Les titres avec vous, Mickaël.
Les professeurs en grève pour dénoncer le comportement agressif de certains parents d'élèves. Ça se passe dans une école publique de Nouveau-Atout, près de Rennes. Ils dénoncent des agressions verbales, des intimidations et des menaces. Au Proche-Orient, 3 personnes, dont un adolescent, ont été blessées dans une attaque armée. En Cisjordanie, selon l'armée et les services de secours, l'assaillant a tiré sur des véhicules israéliens, dont un bus scolaire près de Jéricho. Il est activement recherché. Et puis face à la montée de l'antisémitisme, Berlin prévoit d'introduire dans ses tests de naturalisation des questions sur l'Holocauste, Israël et le judaïsme. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont fortement augmenté en Allemagne.
Merci cher Mickaël, je vous remercie, c'était j'espère une émission passionnante. Regardez comme ça se termine avec vous, les lunettes sont cassées, il n'y a rien.
Mais c'est pas fini, vous verrez la prochaine fois.
Vous croyez qu'on peut le faire payer par l'assurance? Non, avec le bulleux. Je vous remercie, c'était un plaisir, je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Merci cher Bertrand. On peut vous retrouver sur CNews, à quel moment?
Tous les dimanches matin à 7h45 pour la chronique royale.
Merci. Et à très bientôt à ce dimanche. Alors évidemment, j'y serai aussi un peu accessoirement pour le grand rendez-vous également à partir de 10h en direct. Merci.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.